Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Alors moi j'aimerais savoir si on est prêt à redémarrer ou si je lance une dernière petite pause musicale. Hélène, est-ce qu'on est prêt à redémarrer ?
Eh bien, on est prêt à démarrer, oui.
Bon, bah, écoute, vas-y, démarre.
Alors, en direct du Forum Social Libertaire, le 8e Salon du Livre Anarchiste à Merlieu. Donc, on va continuer sur les conférences. Et là, il s'agit d'une conférence sur les femmes, avenir de la classe ouvrière. Et c'est Pierre Rimbert du Monde Diplomatique qui va nous évoquer donc, l'avenir de cette classe ouvrière. Passe-t-il par les femmes ?
Oui, en fait... Bon, c'est un peu une astuce, le titre c'est pas l'avenir, en fait c'est le présent, et c'est ce que j'aimerais essayer de montrer dans cette intervention. Alors, on entend souvent, quand on écoute les grands médias, dire que la très grande supériorité des régimes dits démocratiques réside dans le pouvoir qu'auraient les électeurs à choisir les partis et les représentants qui les dirigeront. Mais on oublie un peu vite... qu'avant le scrutin, en fait, c'est l'opération inverse qui se produit. Ce sont les partis qui vont choisir leurs électeurs. Et ils les choisissent comment ? Eh bien, ils les choisissent en mettant en avant des programmes avec un catalogue de mesures qui sont censées favoriser les intérêts de tel groupe ou de tel autre groupe social. Et puis, une fois ce socle déterminé, eh bien, les partis vont essayer de mener la bataille pour aller agréger autour d'autres groupes sociaux autour de ces propositions. C'est un truc assez connu, mais si vous regardez le programme des Républicains, par exemple, eh bien, ils veulent baisser les impôts, renforcer la police, réduire les cotisations sociales, c'est-à-dire les salaires, raboter le nombre de fonctionnaires, et il n'est pas nécessaire d'être sorti de Sciences Po pour comprendre que ce parti a choisi de s'appuyer sur une espèce de bloc constitué d'une population aisée, de notables, de chefs d'entreprise, etc. Et puis ensuite, à partir de ce bloc, ça leur permettra aussi de courtiser les artisans, les commerçants, qui sont exaspérés par les impôts, les petites classes moyennes, etc., qui sont préoccupés par l'insécurité. Et on peut faire un constat analogue avec, en épluchant, par exemple, le programme de La République En Marche, enfin le programme électoral de l'élection présidentielle dernière, où là, l'accent était mis sur la création d'entreprises, sur la numérisation, le soutien aux start-up, etc. Et d'ailleurs, Macron l'avait volontiers admis dès mai 2018 en disant, je le cite, « La plupart des réformes que notre gouvernement a mis en place depuis le début de mon mandat ont pour objectif de réduire le coût de l'échec entrepreneurial. » Donc là, les choses sont vraiment claires, c'est pas voilé, c'est l'idée que la fraction la plus moderniste de la bourgeoisie a pour parti qui le représente comment il s'appelle maintenant, Renaissance, voilà, le nouveau nom. Et c'est-à-dire, grosso modo, les cadres et professions intellectuelles supérieures. Et c'est là que je voulais en venir. Là, j'ouvre une petite parenthèse sur la structure de la société française, parce qu'on entend souvent ouvriers, employés, professions intermédiaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et combien de divisions ? Grosso modo, si on prend les actifs, les gens qui travaillent ou qui sont à la recherche d'un emploi, on a en France 5 300 000 ouvriers. Les ouvriers, c'est principalement des hommes. 80% des ouvriers sont des hommes et 20% des femmes. Ensuite, il y a les employés. Alors les employés, c'est un peu les ouvriers au féminin, puisque c'est l'inverse. Il y a 75% des employés qui sont des femmes, 27% des hommes, et elles sont 7 300 000. C'est quelque chose d'assez colossal. Ensuite, vous avez les professions intermédiaires. Grosso modo, les professions intermédiaires, c'est une espèce de fourre-tout dans lequel l'INSEE, l'Institut National des Statistiques et des Études Économiques, a rassemblé d'un côté les techniciens et agents de maîtrise, qui sont plutôt du côté de l'usine, de l'autre, les professions du privé, genre les VRP, etc., et puis, ou les petits cadres du privé, et puis un énorme bloc qui sont les professions de la santé, travail, social, éducation, qui sont des femmes. Et si on prend l'ensemble des professions intermédiaires avec ces trois couches, il y a 7 millions de personnes et il y a 54% de femmes. Et c'est un truc qui est assez intéressant parce que c'est l'un des groupes qui est en train de monter dans la société depuis un demi-siècle. Enfin, les cadres et professions intellectuelles supérieures, les gens qui sont en quelque sorte courtisés par Macron, par beaucoup de gens, eux, ils sont 5 200 000. C'est aussi un des groupes qui monte le plus depuis une cinquantaine d'années. Et ils sont à 52% masculins. Enfin, il y a les artisans, commerçants et chefs d'entreprise. Si je vous parle de ces catégories, c'est des statistiques. Donc, il y a des gens qui sont toujours un peu entre les deux. C'est pas une vérité telle qu'on la vit tous les jours, mais c'est la manière dont l'État pense la société. Et pas seulement l'État. C'est aussi la manière dont les sondeurs, les politologues, tous ceux qui parlent des élections, pensent la société. Et c'est important d'avoir ces grandes catégories en tête. Donc, à la base, ouvriers-employés, ouvriers des hommes, employés des femmes, 50% de la population active. Ensuite, profession intermédiaire avec le pôle de l'usine, mais plutôt des encadrants, techniciens, agents de maîtrise, le pôle privé, et puis le pôle travail social, éducation, santé, qui sont surtout des femmes. Enfin, au-dessus dans l'échelle des salaires et des diplômes, les cadres et professions intellectuelles supérieures, c'est l'encadrement capitaliste, grosso modo, et la recherche et les professions intellectuelles qui mettent en musique cette structure sociale, en quelque sorte, et qui forment cette société. Et là où je voulais en venir, c'est que pendant très longtemps, les politologues, les sondeurs, l'idéologie dominante en général, ont postulé que la société allait glisser peu à peu vers les classes moyennes, et qu'à court terme, eh bien, tout le monde serait prospère, diplômé, urbain, gentil, etc. Et cette fable a été purement et simplement anéantie par la crise financière de 2008, dont les populations ont payé l'addition. Et plutôt que la moyennisation des classes populaires, les classes populaires qui allaient devenir des classes moyennes, selon la fable, eh bien, on a assisté à la précarisation des classes moyennes, qui ont payé l'addition de la crise en 2008. Et en particulier, les petites classes moyennes du privé, donc les techniciens, les commerciaux, les agents de maîtrise, et du public, les fonctionnaires de catégorie B, les infirmières, les instituteurs, les aides-soignantes, qui ont été écrasés par l'austérité, par la dégradation des conditions de travail, par une maîtrise de plus en plus agressive, etc. etc. Et bon, cette histoire, je ne vais pas vous la raconter, vous la connaissez, les gilets jaunes, l'éducation nationale, l'hôpital détruit... Tout ça aurait pu se retrouver au centre des enjeux de l'élection présidentielle et évidemment, c'est quelque chose qu'on a été assez largement évacué. Du coup, si vous faites le tour d'horizon des partis qui sont censés représenter les gens qui les élisent, eh bien, vous allez constater une espèce de dissymétrie assez frappante entre d'un côté le quart le plus aisé de la population, cadre et profession intellectuelle supérieure, donc 20-22% de la population, qui fait l'objet de la grande sollicitude des partis. Tout le monde essaye de les courtiser. La droite courtise la fraction conservatrice des cadres et professions intellectuelles supérieures. Le centre, sa fraction start-upper, on va dire. Les Verts et les socialistes, sa fraction intello progressiste. Même Éric Zemmour courtisé avec son programme national libéral, la partie la plus conservatrice et la plus nationaliste de cette population. Et d'un autre côté, les partis de gauche, eh bien, ils ont complètement renoncé à identifier un groupe social sur lequel reposerait leur stratégie. Les partis de gauche nous expliquent que leur programme s'adresse aux gens, s'adresse au plus grand nombre, s'adresse aux 99%. Et c'est un changement assez notable par rapport au siècle passé, par rapport au XXe siècle, au cours duquel la gauche avait placé le monde ouvrier au centre de ses préoccupations, avec une logique qui était relativement simple. C'était que certes, les ouvriers étaient minoritaires, et c'était assumé, mais dans la population active, ils formaient une espèce de moyeu, un espèce de moteur qui entraînait le reste de la population, parce que ce moteur était au centre de la civilisation industrielle. En quelque sorte, c'était le monde ouvrier qui produisait la richesse. Et puis, toutes les théories qui inspiraient un peu les partis de gauche, y compris les socialistes, avaient identifié le prolétariat comme l'agent historique qui était porteur d'une espèce de vocation universelle, à savoir faire la révolution, à savoir porter la naissance d'une société sans classe. En d'autres termes, la gauche avait d'autant moins de problèmes à articuler sa stratégie sur le groupe ouvrier que ce groupe-là était supposé porter les intérêts à long terme de l'ensemble de la population et de l'ensemble de l'humanité. Et là, aujourd'hui, l'image s'est complètement renversée. Dans les médias dominants, dans les essais qui influencent les décideurs, et plus largement dans toutes les institutions culturelles, on a l'idée que le monde populaire est en déclin. On a, quand un journaliste pense classe populaire, eh ben, dans son esprit, il va se former l'image d'un bonhomme un peu inculte, qui habite à la campagne, qui est raciste un peu sur les bords, qui est réfractaire aux progrès sociétaux, qui est réfractaire aux droits des minorités, qui se soucie pas du tout de l'écologie, etc., etc. Quand un journaliste pense classe populaire, il pense au passé, au repli, à l'ignorance, à l'identité, à l'enracinement, au populisme. Ce sont comme des voyants qui s'allument dans sa tête de journaliste, parce que c'est ce qu'il répète lui-même à ses lecteurs, à ses auditeurs, à ses téléspectateurs depuis un certain nombre d'années. Et évidemment, lorsqu'on voit le niveau exceptionnellement élevé de l'extrême droite en France, on a le sentiment que, puisque les classes populaires sont majoritaires et que l'extrême droite monte, eh bien, c'est logiquement que les classes populaires sont d'extrême droite. Tout ça est bien joli, mais ça a été assez largement infirmé par les deux grandes secousses qui se sont produites pendant le premier quinquennat de Macron. D'abord, le mouvement des Gilets jaunes, qui était principalement centré sur la précarité socio-économique. Le mouvement des Gilets jaunes n'était pas un mouvement centré sur l'écologie, sur le progrès sociétal, enfin sur un refus de l'écologie, sur le progrès sociétal, sur, je ne sais pas, le racisme, etc. C'était un mouvement qui était centré sur les fins de mois difficiles. Et puis, autre grand mouvement, le confinement du printemps 2020. C'est quelque chose que beaucoup de gens ont évacué parce que, fort heureusement, on en est sorti. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant ce grand confinement du printemps 2020, eh bien, soudain, les dirigeants ont dû concéder que le pays ne reposait pas sur le jeune créateur d'entreprise, sur l'auditeur conseil de McKinsey, sur le manager, sur l'ingénieur spécialisé en intelligence artificielle, mais que la société reposait sur des caissières, des aides-soignantes, des chauffeurs de poids lourds, des auxiliaires de vie, des nettoyeuses industrielles. Et ce choc, je crois, a révélé une espèce de glissement de tectonique sociologique, en quelque sorte, qui est intervenue depuis une cinquantaine d'années, à bas bruit, au sein du salariat en général, et dans les classes populaires en particulier, à savoir la montée en puissance des femmes et des services d'utilité publique. La mise au travail des femmes, on le sait, c'est l'un des faits sociaux les plus incroyablement violents, marquants, frappants du dernier demi-siècle. Et pour donner une idée de l'ampleur de ce phénomène, il suffit de citer deux chiffres. En France, le nombre d'hommes au travail n'a pratiquement pas varié depuis 50 ans. En 1970, on comptait 13,5 millions d'hommes au travail. Aujourd'hui, 14 millions. C'est pratiquement le même chiffre. Mais dans le même temps, le nombre de femmes au travail est passé de 7,6 millions en 70 à 13 millions aujourd'hui. C'est-à-dire que la presque totalité de la force de travail qui a été engendrée par l'économie capitaliste depuis un demi-siècle en France, c'est une force de travail féminine. En 70, seule la moitié des 25-59 ans, des femmes de 25 à 59 ans, étaient actives. Aujourd'hui, c'est 95%. Et c'est quelque chose qui est vraiment frappant. En 2019, vous aviez 91,9% des hommes qui étaient actifs et 82,5%, pardon, pas 95, des femmes qui étaient actives. Donc c'est en train de s'équilibrer. Et cette montée en puissance, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'elle s'observe quel que soit le niveau d'éducation. Alors bien sûr, c'est pas du tout une montée en puissance qui reflète une égalité homme-femme, puisque ça, pas besoin de faire un dessin, elle s'accompagne d'une précarité très supérieure des femmes par rapport aux hommes, sous la forme de chômage, de temps partiel non choisi, d'horaires découpés, de petits salaires, etc., etc., etc. Mais reste que cette dynamique a totalement bouleversé la cartographie sociale du pays, et en particulier, et là c'est un point sur lequel les gens insistent très rarement, en particulier la cartographie des classes populaires. L'année dernière, avec des amis sociologues, on a essayé d'exploiter des grandes enquêtes de l'INSEE sur l'emploi en France. Ce sont des enquêtes qui sont faites régulièrement depuis les années 50 sur des très très gros échantillons, 300, 400 000 personnes. Et on en a pris trois, une de 70, une de 95 et une de 2019, parce que 2020, elle a été faussée par le Covid. Et on a regardé qui fait quoi dans la population française. Et ce qu'on a trouvé, qui m'a beaucoup frappé, c'est que depuis un quart de siècle déjà, les classes populaires sont majoritairement féminines. C'est-à-dire que dès 1995, les femmes sont majoritaires chez les employés ouvriers. Tout à l'heure, je vous ai donné l'espèce de stratification de la société française. Donc si vous prenez le monde ouvrier, ouvrier plus employé, ce qu'on appelle les classes populaires, les femmes sont majoritaires depuis 1995. Alors 1995, peut-être que certains ou certaines d'entre vous s'en souviennent, c'était l'image, les cheminots, c'était l'image, la culture populaire, l'imaginaire de ce mouvement est resté un imaginaire très masculin, alors que de manière souterraine, ce bouleversement avait déjà traversé la société française et les femmes étaient déjà majoritaires dans les classes populaires, à côté de l'industrie qui n'a pas du tout disparu. Hein, je le rappelle, il y a 5 300 000 ouvriers aujourd'hui en France, l'industrie existe, etc. Mais à côté de cette industrie, montait une nouvelle force sociale, celle des travailleuses, des services essentiels à la vie commune. Le truc, c'est que le travail des femmes a lui-même beaucoup changé depuis les années 70-80. En 82, presque une femme active sur trois travaillait dans l'administration des entreprises privées. C'était les sténodactylos, les standardistes, les comptables, puisqu'on avait un énorme volant d'emplois qui ont été presque entièrement numérisés depuis 35-40 ans. Et il n'y a pas seulement eu le mouvement de numérisation, mais le mouvement de vieillissement de la population et de transformation des activités domestiques en emplois à domicile, puisque ça, c'est très connu, tout le monde le sait, mais la plupart des emplois domestiques qui étaient auparavant effectués par du travail féminin non payé, non salarié, s'est transformé en travail salarié. Quand une femme gardait un enfant non salarié, ça compte pas dans le produit intérieur brut. Quand c'est une femme qui vient en tant qu'auxiliaire de vie ou aide soignante pour soigner quelqu'un qui est âgé, etc., c'est évidemment salarié. Bref, tous ces phénomènes ont fait gonfler les effectifs d'une nouvelle catégorie de travailleuses. Les assistantes maternelles, il y en a 400 000 aujourd'hui. Les aides ménagères, il y en a 500 000 aujourd'hui. Les aides aux personnes âgées, handicapées. Et puis, ça c'est à domicile, hein, chez les particuliers, vous avez aussi ce même type d'emploi dans les services publics, de la santé, de l'éducation, du social, ces secteurs que le sociologue Pierre Bourdieu avait appelé la main gauche de l'État par opposition à la main droite de l'État qui est la police, l'armée, le ministère de l'économie et des finances qui essaye de couper les budgets destinés justement à la production des infrastructures sociales. Et là, aides-soignantes, 400 000 personnes, les auxiliaires de puériculture, les agents des services hospitaliers, les aides médico-psychologiques, les institutrices, etc. Ce sont des contingents vraiment aux effectifs extraordinairement importants, si bien qu'aujourd'hui, ces professions de services directs aux particuliers et de services dans les services publics, agents des services santé, social, éducation, forment le cœur du prolétariat féminin. Alors, je parle des femmes, il y a évidemment des hommes, hein, ce sont des professions qui sont majoritairement féminines, mais qui comportent une partie, certes minoritaire, mais existante d'hommes. Ce sont des gens qui sont, au plus bas de l'échelle, mal payés, qui travaillent dans des conditions très difficiles, qui réalisent souvent des travaux invisibles, c'est-à-dire qu'ils ne se remarquent que lorsqu'ils ne sont pas faits ou mal faits, si bien que ce sont des personnes qui, en général, n'ont pour seul commentaire de leur boulot des gens qui grognent en permanence. Donc c'est vraiment un travail très difficile. Et L'autre difficulté, c'est que cet ensemble, qu'on peut distinguer dans les chiffres et qu'on peut distinguer dans les statistiques, on ne le distingue pas dans la vie de tous les jours, parce qu'il forme une espèce de nébuleuse qui n'a pas la cohérence sociale que donnaient tous les métiers qui travaillaient dans une seule usine, puisqu'il y avait une espèce de regroupement physique. Autant on peut imaginer que les aides-soignantes et les agents de services hospitaliers luttent ensemble, autant il paraît beaucoup plus difficile de mobiliser dans une bataille commune eh bien, des aides ménagères et des femmes de ménage qui vont travailler chez des particuliers. Mais le fait est là, et c'est un fait dont on n'entend pratiquement pas parler, malgré sa portée, à mon avis, décisive, c'est qu'en 2019, les femmes sont largement majoritaires dans les classes populaires. Elles comptent pour 52,5% de l'ensemble des classes populaires contre 47,5% des hommes. C'est un écart de 5 points qui est quand même assez considérable. Et lorsqu'on réfléchit à l'imaginaire, quand on pense classe populaire, imaginaire que les médias et les industries culturelles associent bien souvent le monde ouvrier à l'image du métallo au chômage, tenté par le vote Le Pen, etc. En fait, l'image qui devrait se former dans nos têtes, c'est l'image d'une aide-soignante. Et cette image, nous ne l'avons pas. Ce que le monde politique refuse de voir, je crois, c'est que les femmes salariées dans ces secteurs forment une espèce de moyeu dont on parlait tout à l'heure, de moyeu des classes populaires. Ce sont elles qui produisent non pas des biens manufacturés, mais les infrastructures sociales sur lesquelles repose la société. Alors là, jusqu'à maintenant, j'ai parlé uniquement des ouvriers et employés, c'est les classes populaires, cette moitié en quelque sorte du salariat au sens de l'INSEE, c'est-à-dire ce sont les salariés les moins payés, les moins diplômés. Et dans leur vie quotidienne, ces salariés, eh bien, elles voisinent avec un autre ensemble de professions qui sont elles aussi très majoritairement féminines, qui sont un peu plus diplômées, un peu mieux payées, et dont l'essor a lui aussi changé la vie de ce pays, qui sont, ce dont on parlait tout à l'heure, les professions de la santé, du travail social, dans les couches intermédiaires. Infirmières, assistantes sociales, qui, avec les instituteurs et institutrices, comptent pour près de 10% de l'emploi total en France. Donc là aussi, ce sont des populations très importante. On a 530 000 infirmières en France, 440 000 professeurs des écoles et des collèges. On a en tout 2 millions de femmes qui travaillent dans ces secteurs des couches moyennes. Alors évidemment, il existe un fossé entre une infirmière diplômée qui bosse dans un hôpital public, syndiquée, etc., et puis une auxiliaire de vie sans papier qui est employée plus ou moins légalement chez un particulier. Mais ces métiers, si on compte les hommes qui y travaillent également, regroupent entre 7 et 8 millions de personnes. C'est un bon quart du salariat en France. Et par-delà leurs différences, ces services publics, services à la personne, du soin, du travail social, de l'éducation, ils présentent plusieurs points communs. D'abord, ce sont des métiers indispensables, non délocalisables, très difficilement automatisables parce qu'ils exigent un contact humain prolongé ou une attention particulière qui est portée à chaque cas. Vous ne pouvez pas programmer un robot. Deuxièmement, ils font l'objet, quel que soit le niveau, de politiques d'austérité depuis une trentaine d'années de la part des gouvernements et leurs conditions d'exercice se dégradent presque partout. Troisièmement, ces emplois jouissent d'une très bonne réputation. Quatrièmement, ils montent en puissance numériquement sur le long terme depuis un demi-siècle. Et la bizarrerie, vous vous dites, un bloc social dont les effectifs montent, qui a bonne réputation, emplois non délocalisables, non automatisables, etc., comment se fait-il qu'aucun parti, aucun syndicat, aucune organisation qui prétend représenter les travailleurs, n'a jusqu'ici fait le choix de centrer son discours sur cette population, de relayer systématiquement ses préoccupations, de défendre ses intérêts, alors même que cette population produit les infrastructures qui font fonctionner la société. On pourrait tout à fait imaginer qu'une force politique choisisse de faire de ce groupe le noyau de son électorat, le noyau de mouvements sociaux, pour ceux qui estiment que la politique électorale ne les concerne pas, et essayer de bâtir une coalition sociale qui reposerait sur cette base de classe populaire, ouvriers, employés, majoritairement féminines, sur la partie des services publics et des professions intermédiaires, dont on parlait à l'instant, et puis sur une petite fraction des professions intellectuelles supérieures que sont les enseignantes et les enseignants du secondaire. Cette base, ce bloc, eh bien, je crois que c'est la nouveauté du salariat. Quand on réfléchit aux grandes transformations contemporaines, grandes transformations sociales, on pense souvent, enfin plutôt les médias pensent souvent spontanément à Mark Zuckerberg, aux services numériques, à la Silicon Valley, etc., etc. Mais si on veut bien prendre un tout petit peu de recul, la prise en charge commune, la prise en charge collective des nécessités vitales comme la santé, comme l'éducation, etc., représente une modernité autrement plus importante que Facebook, Twitter ou Instagram. Alors, tout ça c'est bien beau parce que moi je dis ça sur le papier et de fait c'est très facile sur le papier, vous regardez les chiffres, vous faites des additions et tout ça s'additionne, tout ça marche bien. Mais en réalité, il y a énormément de difficultés. De quels outils disposerait ce salariat, ce bloc populaire féminin pour s'organiser et puis pour essayer de former autour de lui cette espèce de coalition qui serait capable de lancer eh bien, des grandes batailles, de remporter des victoires, etc. Mon sentiment, c'est que ce groupe social dispose de plusieurs outils et d'excellents outils. Premièrement, je le disais tout à l'heure, cette popularité. Autant les médias qui mentent souvent, comme vous le savez, ont réussi au fil des décennies à associer le monde ouvrier au passé, dépassé, c'est terminé, etc. Autant l'éducation, la santé et les soins, c'est beaucoup plus difficile de dire que c'est mort. À mon avis, ils n'y arriveront pas. C'est une image qui est inaltérable, encore plus depuis l'épidémie de Covid. Chacun connaît le caractère essentiel et indispensable de ces secteurs. On peut s'imaginer vivre sans usine sidérurgique. Il est beaucoup plus difficile d'imaginer vivre sans école, sans hôpitaux, sans des personnes qui s'occupent des nourrissons, des personnes âgées, etc., etc. Et à ce jour, personne ne s'est précipité aux fenêtres pour applaudir la dernière mise à jour de Apple sur son téléphone ou la dernière mouture d'Instagram, contrairement à ce qui s'est passé pendant le Covid. Et je crois que une partie de cette popularité des grands services, des infrastructures sociales, est associée dans l'opinion publique à la conscience d'une dégradation de ces services. Parce que la dégradation, c'est pas seulement pour les gens qui y travaillent, c'est aussi pour les gens qui viennent se faire soigner, qui sont éduqués, etc. Et ça, c'est le deuxième atout, je crois, pour construire ce bloc social. Il y a une revendication qui est ultra basique, qui paraît inoffensive, pas radicale du tout, et qui est omniprésente dans ces secteurs, du bas en haut, du haut en bas de ces secteurs. Cette revendication, vous la connaissez tous, exiger les moyens de bien faire son travail. Les moyens de bien faire son travail, c'est ce que revendiquent les soignants des EHPAD, des hôpitaux, les enseignants, etc., etc. Et évidemment, ça paraît complètement basique, ça paraît un acte de soumission, mais pas du tout. Revendiquer les moyens de bien faire son travail dans ces services, c'est assez subversif dans la mesure où, d'une part, ça permet de tirer un trait d'union entre public et privé, parce que ces conditions de travail, plutôt la privation des conditions de bien faire son travail, vous retrouvez ça aussi dans un supermarché, vous retrouvez ça aussi dans la plupart des entreprises privées, et que vous soyez enseignante ou manutentionnaire, guichetière ou employé, une des grandes sources de la souffrance salariale, c'est de se trouver dépossédé des moyens de bien faire son travail. Et d'une certaine manière, c'est cette espèce de trait d'union négatif entre Lidl et l'EHPAD du coin, c'est que dans les deux cas, on est dépossédé des moyens de bien faire son travail. Alors évidemment, ça paraît inoffensif tout ça, mais ce qui est plus délicat pour les gens qui nous dépossèdent des moyens de bien faire notre travail, c'est que si cette revendication était satisfaite, Eh bien, pour la satisfaire, il faudrait opérer un tournant majeur dans la politique économique du pays. Exiger de bien faire son travail, c'est d'abord mettre en avant une problématique beaucoup plus générale qui est celle de l'asservissement managérial qu'on retrouve chez Lidl, mais qu'on retrouve aussi dans les EHPAD, et de la subordination au travail qui gangrène aussi bien le public que le privé. Alors évidemment, la subordination au travail, la pression managériale, etc., lorsqu'il s'agit des manutentionnaires ou des cheminots, eh bien, cette revendication, elle est bien souvent accueillie avec des haussements d'épaules ou avec circonspection par le grand public et par la grande presse, parce qu'on dit, ok, c'est important, mais c'est pas si important, et puis d'une certaine manière, ça nous concerne pas. Lorsqu'il est question de changer les couches de personnes incontinentes dans un EHPAD, lorsqu'il est question de s'occuper des enfants dans une maternelle, eh bien là, on va y réfléchir à deux fois à la signification de déposséder les travailleurs et les travailleuses des moyens de bien faire leur boulot. Parce que, au fond de soi, on sait tous que la qualité de ces services dépend de la quantité de travail qui y est investi. Et si on élargit un petit peu la focale, on comprend que ces services et ce bloc social à dominante féminine, eh bien, ils se trouvent au cœur d'un antagonisme que les classes dirigeantes ont tout intérêt à dérober au regard du public. Cet antagonisme, il oppose d'un côté une coalition bourgeoise, majoritairement masculine, qui est formée par les grandes institutions financières internationales, par les patrons et les ingénieurs de la Silicon Valley, par les start-upers macroniens, par les cadres commerciaux, les éditorialistes, la haute fonction publique du Trésor. Et cette Sainte Alliance a pour projet de réduire la quantité de travail employée dans ses services vitaux. Elle exige une baisse du coût de ses activités, c'est-à-dire leur dégradation, soit en essayant de passer ses services à la moulinette numérique, soit en les externalisant, soit enfin en les supprimant purement et simplement. Et tous ces professionnels de la démolition sociale appartiennent aux classes supérieures. Ils sont passés par les universités les plus prestigieuses, par les grandes écoles. Ils se présentent comme les dépositaires du vrai savoir et ils veulent moins d'impôts, moins de droits du travail, plus de liberté d'entreprendre. Et ce qui est frappant, c'est que ce bloc bourgeois qu'on retrouve derrière Macron pour une part, derrière les Républicains de l'autre, est conscient de ses intérêts malgré ses divergences. Il est conscient de ses intérêts communs et il porte un projet tout à fait explicite. Ça, c'est la première coalition. Elle s'oppose à quoi ? De l'autre côté, cette coalition en devenir, cette coalition potentielle qui n'est pas formée politiquement, qui est encore inconsciente d'elle-même et qui est formée par tous ceux et surtout par toutes celles qui produisent ces services vitaux et par ceux et celles, évidemment, qui en sont aussi les usagers. Et si ce bloc potentiel a l'avantage de la popularité, il présente évidemment un inconvénient majeur, c'est qu'il n'a pas conscience, contrairement à son adversaire, de ses intérêts communs. Et ce qui fait défaut, c'est cette espèce de conscience collective, d'identité sociale, un imaginaire culturel aussi, autour de laquelle eh bien, cette conscience de classe pourrait se former. Il manque, et c'est aussi de la faute, et surtout d'ailleurs de la faute des industries culturelles, de la presse, des gens qui font du cinéma, des bandes dessinées, des romans, etc. Il manque un discours qui permette, lorsqu'éclatent des mouvements sociaux dans les EHPAD, dans les hôpitaux, eh bien de faire le lien dans notre imaginaire entre les intérêts communs des nettoyeuses, des personnels enseignants, des préposés aux services sociaux, des usagers, etc. Un lien entre les employés de la sécurité sociale qui bénéficient d'un statut et des femmes de ménage précaires qui sont souvent d'origine immigrée, qui s'occupent du nettoyage de la propreté chez les autres et des aides soignantes, etc., etc. Et ce lien, je crois, on pourra en discuter peut-être tout à l'heure, ce serait celui de cette fierté de produire ces infrastructures sociales, d'un socialisme des services publics. On socialise, on prend une part de la valeur, on la met de côté pour produire ensemble ce dont nous avons absolument tous besoin et on le rémunère correctement pour que cela fonctionne bien. Historiquement, ce sont les salariés organisés en syndicats ou parfois dans des partis qui ont construit et qui ont tenu ces discours afin de transformer eh bien, le groupe social objectif, la classe objective, celle qu'on peut lire dans les statistiques de l'INSEE, en groupe, en classe consciente d'elle-même. Mais voilà, ce travail, on peut admettre qu'il n'est plus aussi bien fait ou plus fait du tout. Et au contraire, tout est fait depuis des décennies, je crois, pour que le prolétariat féminin des services vitaux demeure invisible dans l'ordre de la production. Et je crois que c'est l'une des forces du discours dominant que d'imposer sa propre définition de la valeur, de désigner comme productrice de valeur les seules activités qui valorisent le capital. On entend systématiquement parler de dépenses de santé. On n'entend jamais parler de production de soins. Et la différence est énorme. Le monde politique, les médias, présentent presque toujours la santé, l'éducation comme des bienfaits qui sont dispensés par des services publics ou comme des bienfaits qui sont dispensés par des gens dévoués, par des femmes dévouées. Et je crois que la difficulté, c'est qu'on ne parle pas de richesses qui sont produites par des travailleuses. Ce serait complètement différent d'envisager ces services nécessaires comme des richesses, comme une valeur qui est produite non pas par des femmes dévouées, mais par des travailleuses, par des productrices. Les aides-soignantes sont des productrices, et comme le dit souvent Bernard Friot, dont je reprends ici un peu servilement les propos, les nettoyeuses industrielles sont des productrices, les institutrices sont des productrices. Elles ne rendent pas un service, elles produisent de la valeur. Elles produisent quelle valeur ? Elles produisent la société. Alors, ce n'est pas une valeur boursière, ce n'est pas une valeur marchande, mais c'est une valeur sans laquelle nous ne pouvons pas vivre ensemble, qui sont ces infrastructures sociales. Et il est là, je crois, ce cristal, ce germe autour duquel pourrait s'organiser cette conscience de classe, ces métiers de l'enseignement, du soin, de la santé, de la propreté, des services sociaux sont indispensables à la vie en collectivité. Ils sont associés parmi tout le monde et depuis très longtemps à l'idée eh bien, d'intérêt public. Ils représentent, je crois, des attributs parmi les plus vitaux des sociétés civilisées et ils tissent en quelque sorte une espèce de toile autour de laquelle eh bien, s'organise la vie commune. Et là, on voit un peu la force des préjugés libéraux. Personne ne reprochera jamais à Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, de ne rien produire. Pourtant, que produit Facebook, si ce n'est une espèce de forme commerciale, numérique et à mon avis profondément mutilée de ces rapports humains que produisent par ailleurs ces services qu'on dit non productifs. Alors, je conclue, peut-être qu'on va en discuter de manière plus vivante. Et je crois qu'à bien des égards, le mouvement des Gilets jaunes a traduit cette précarité, cette précarisation des classes moyennes. Et on peut se dire toujours qu'il y a en effet un écart flagrant, abyssal, entre le style de vie, les conditions de vie d'une assistante maternelle d'un côté et puis d'une infirmière diplômée de l'autre. Mais toutes les deux subissent la pression d'un management qui les empêche de bien faire leur travail. Toutes les deux connaissent des fins de mois difficiles. Et puis en 2018, l'une et l'autre ont parfois enfilé le même gilet jaune. Et à tel point qu'on pouvait lire dans une enquête de la vénérable Revue française de sciences politiques, qui n'est pas réputée pour être adhérente à la Fédération anarchiste, je cite « Concernant les femmes sur les ronds-points, il faut noter une surreprésentation des personnels des services directs aux particuliers, ainsi qu'une forte présence des infirmières, faisant écho, je cite toujours, à des mobilisations sectorielles en cours face à des conditions de travail dégradées. » L'épidémie de Covid a renforcé cette tendance. Les conditions de travail se dégradent toujours à l'hôpital. Les soutières de la santé sont désormais conscientes du fait qu'en cas de crise, tout repose sur elles. Et même Macron a dû faire une sortie, je crois que c'était le 11 avril 2020, pour dire « oui, tout le pays repose sur vous, vous n'êtes pas considérés, etc. etc. » C'était le 13 avril, pardon, et la citation, c'est « notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » Bon, il n'en a tenu bien évidemment hein, aucun compte, mais ça, ce n'est pas une surprise énorme. Au moment précis où Macron formulait ses cajoleries, lui et son gouvernement profiter de l'épidémie pour accélérer la numérisation de la société et sous-traiter de plus en plus à des entreprises de la Silicon Valley des pans entiers de l'infrastructure sociale. Rappelez-vous, pendant le Covid, on a eu de plus en plus recours à ces instruments numériques, à commencer par Zoom, hein, qui n'est pas un service public, pour communiquer les uns avec les autres, ou même pour prendre rendez-vous chez le docteur, etc. Et je crois que la gauche politique et syndicale n'a pas du tout pris la mesure de ces enjeux. En 2020, en avril 2020, eh bien, les personnels hospitaliers disposaient d'un rapport de force historique pour imposer le regroupement sans délai de tous ces services dans un statut unique qui était protégé, parce que là, tout reposait sur eux. Et là, à ce moment-là, les partis et les syndicats étaient tétanisés parce que c'était censé être l'urgence nationale, l'union nationale dans la grande lutte contre le Covid, etc. Et mon sentiment, c'est qu'une occasion a été à ce moment-là gâchée. Tout est reparti comme avant. Et puis, vous l'avez vu au cours de la présidentielle, eh bien, les partis de gauche ont toujours cet espoir de créer un large front social qui rassemblerait des ouvriers et des enseignants, de faire en quelque sorte le grand écart entre le monde ouvrier et les cadres et professions intellectuelles supérieures. La difficulté de ce genre de stratégie politique, c'est qu'elle donne toujours le beau rôle aux cadres et professions intellectuelles supérieures. Ce sont toujours eux qui forment la stratégie politique, et d'une certaine manière, pourquoi non, puisque les cadres et professions intellectuelles supérieures, c'est 99% des stratèges de la gauche. Ils sont issus de ce milieu social. Donc évidemment, ils vont organiser les stratégies en se fondant d'abord sur eux, et puis on rajoutera les autres par surcroît. Mon hypothèse, c'est qu'il faut faire tout l'inverse. D'un point de vue sociologique, ce qui monte, ce qui est le moyeu de la société, c'est cette coalition des auxiliaires de vie, des infirmières, de leurs conjoints, des ouvriers masculins qui sont ouvriers dans la logistique, techniciens. Et cette alliance-là, elle est beaucoup plus viable, à mon avis, sur le plan politique, que l'alliance d'un journaliste ou d'une journaliste et d'un chaudronnier. Cette alliance-là, mon sentiment, c'est qu'elle sera beaucoup plus dure à construire que celle autour du bloc féminin. Et je crois qu'elle est aussi politiquement beaucoup plus porteuse, parce que les services vitaux, qui sont à dominante féminine, ils échappent en partie, mais en grande partie, à ces clivages identitaires, parce que vous avez un très grand nombre de personnes qui sont d'origine immigrée, qui y travaillent et qui y travaillent en bonne intelligence et en camaraderie avec des personnes d'origine non immigrée, ou du moins de plus longue date. On est tous un peu immigrés quand même. Et je crois que cette stratégie permettrait de délimiter clairement deux camps, appuyer sur des classes sociales différentes et appuyer sur une vision de la société opposée. D'un côté, ce groupe, formé par les patrons informaticiens, les cadres supérieurs des secteurs économiques en vogue, que sont la finance et le numérique. Comme par hasard, ces deux secteurs dans le monde entier, la finance et le numérique, c'est 80% d'hommes. Qui font quoi? Qui privatisent la connaissance, qui amassent des milliards d'euros dans des paradis fiscaux en vendant des services qui détruisent la société. C'est ça leur activité. Et qui estiment que la socialisation des richesses forme une entrave à leur bonheur individuel. Ça, c'est la première coalition. Elle existe, elle est consciente de ses intérêts, elle est représentée en France par un parti, Renaissance ou Macron. Et de l'autre côté, la coalition, qui, à mon avis, est en train de voir le jour, mais qui n'a pas été encore localisée par les gens qui prétendent nous représenter, c'est celle des classes populaires à base féminine qui se situent au cœur du salariat, qui depuis 25 ans sont majoritaires, qui produisent les services vitaux et qui préfigurent un modèle de société où l'épanouissement de l'individu passe par la prise en charge collective des besoins de base. Et qui pour cela, eh bien, socialise une partie de la richesse pour rendre la vie collective plus désirable et plus heureuse. Là, je crois qu'on a une image de deux blocs sociaux qui s'affrontent, une image de la lutte de classe dans laquelle, pour une fois, eh bien, notre camp serait plutôt en bonne posture. Voilà, je m'arrête là et puis je vous laisse la parole.
Hélène, s'il te plaît, tu attends le micro.
Le micro arrive.
Voilà, j'avais envie d'intervenir parce que moi, je viens du milieu de la santé. Et je suis complètement d'accord avec cette montée de la main-d'œuvre féminine telle que vous venez de l'évoquer. Mais je pense qu'on avait déjà conscience de cela dans les années 80. Et je pense au grand mouvement infirmier en 81, puis après en 88, où on avait un slogan quand même dans la rue, c'était « ni bonne, ni nonne, ni conne hein, ». Et qu'on essayait syndicalement, et finalement on a échoué puisqu'on a fait une coordination, on essayait syndicalement de faire entendre, un, qu'on devait être mieux payé, et deux, qu'on voulait avoir des conditions de travail pour bien faire notre travail tel que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et c'était bien en reniant toute l'idéologie catholique et de boniche, enfin voilà, et de discrimination, c'était bien ça qu'on avait. On n'a pas eu les syndicats avec nous, il a fallu faire des coordinations, voilà. Mais on avait déjà ça. Par contre, au moment du Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Pas de rencontre telle que vous venez de l'évoquer, mais parce que le personnel soignant était épuisé. On n'imagine pas à quel point de travailler comme on a travaillé, c'était plus possible de pouvoir penser, s'organiser autrement. Par contre, sur les 12 luttes des femmes de chambre, il y en a 11 qui ont gagné, qui ont mis du temps pour gagner, hein, pour certaines, je pense aux Batignolles, bien sûr, mais qui ont gagné. Alors, pas complètement gagné, mais qui ont gagné. Et c'était peut-être ça aussi que j'avais envie d'entendre, c'est que aujourd'hui, ce sont les femmes les plus précarisées, souvent d'origine immigrée ou immigrée elles-mêmes, hein, qui se retrouvent à lutter et finalement à gagner. Et je crois que ça nous donne quand même un espoir. Mais après, il faut en faire quelque chose, bien sûr.
Quelqu'un veut intervenir?
Il y a une chose rapidement à laquelle je pensais, sur laquelle vous n'avez peut-être pas suffisamment insisté, mais il me semble qu'il y a chez tous ces personnels donc du soin d'une manière générale une espèce de d'injonction de difficulté à dans le rapport de force qu'il faudrait établir pour les luttes. Et qui voudrait dire, peut-être à certains moments, si on fait grève, abandonner les personnes qui ont besoin de nous, qui ont besoin du soin. Imaginez l'auxiliaire de vie qui dirait « demain, j'y vais pas, le petit vieux, la petite vieille, elle va se démerder ». Moralement, je pense que c'est une charge énorme qu'il faut pouvoir assumer. Et je pense que dans le fait que les luttes ne se fassent pas si bien que ça, cette dimension-là est très importante. Et justement, quand il s'agit de femmes de chambre, par exemple, dans les hôtels, il n'y a pas cette dimension-là. Si les lits ne sont pas faits, on ne va pas faire des cauchemars le soir. Hein. Et je pense que ça est très important.
Oui, c'est d'autant plus important que ça impliquerait de transformer complètement les moyens de lutte et les méthodes de grève. Je discutais avec une syndicaliste sud de Clermont-Ferrand qui avait organisé il y a peu de temps une grève dans un EHPAD. Et qu'est-ce qu'elles avaient fait ? Eh ben, elles avaient dit aux gens de reprendre leurs personnes âgées. Elles l'avaient organisé très longtemps en amont. Les gens qui n'avaient pas de famille, elles s'étaient quand même occupées d'eux, bien entendu. Mais elles avaient fait grève. L'EHPAD était fermé, et les gens avaient été associés à la grève très en amont. Alors c'était complètement épuisant, hein, c'était épuisant à double titre, moralement et physiquement, parce que de fait ils avaient occupé l'EHPAD, etc. Mais ça implique en effet de transformer complètement les modalités d'action, on ne peut pas faire grève comme ça, et aussi de dépasser ce qui a été instrumentalisé, le sentiment que tu évoquais, qui a été de responsabilité, qui a été beaucoup instrumentalisé par le management de ces services, en essayant de faire peser sur les femmes, bah, selon la bonne morale catholique, comme quoi c'est quelque chose qui est dû d'une certaine manière, une mauvaise conscience. Et l'instrumentalisation de cette mauvaise conscience est vraiment terrifiante dans les EHPAD, par exemple, où le management pousse les personnels à suivre des formations avec des noms complètement débiles. C'était pas la sollicitude, mais c'est un truc... Humanitude, voilà. Des formations à l'humanitude. Non, on dirait un truc qui est sorti du Ségolène Royal, quoi. À l'humanitude, voilà. et alors... Comme si, le truc est vraiment intéressant parce qu'on vous fait une formation à l'humanitude et grosso modo le problème c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas assez de moyens, on vous fait suivre cette formation à l'humanitude comme pour signifier que le problème n'est pas en fait qu'il n'y ait pas assez de moyens mais qu'il vous manque à vous personnellement une qualité sans laquelle les patients seraient moins bien traités. Donc c'est une espèce de manipulation qui consiste à transférer la responsabilité économique de ces EHPAD, soit du service public quand il s'agit d'EHPAD publics, soit de la société privée lorsqu'il s'agit d'EHPAD privés, vers les individus qui soignent, les soignants, en leur disant « mais en fait, c'est à vous qu'il manque quelque chose, c'est pas de l'argent qui manque dans la caisse, c'est vous qui êtes dépourvu d'humanitude et on va, en quelque sorte... » Donc, il y a ces deux éléments qui sont, à mon avis, cruciaux. Un, réorganiser la lutte. Mais comme il s'agit de services publics, l'avantage, c'est que cette réorganisation de la lutte peut être assez largement faite en partenariat, enfin en collaboration avec les usagers. C'est ce qui s'est fait notamment dans le monde enseignant, hein, là où les profs pouvaient compter sur des parents d'élèves dans le 93 notamment, etc. Et puis dépasser cette espèce de mauvaise conscience, de sens de la responsabilité... non pas pour s'en abstraire, mais pour remettre sur les épaules du management et de l'État ce que l'État et le privé essayent de transférer avec un double poids sur les épaules des soignants.
Oui, moi j'ai quand même un peu l'impression que tous les partis dits gouvernementaux, bon, ils ont complètement abandonné effectivement les idées de classe, voilà, et que maintenant leur problème c'est de s'adresser aux classes moyennes. Et bon, moi je pense que c'est ça le problème en ce moment, y compris parmi toutes ces nouvelles professions qui apparaissent et qui se développent, pas forcément très nouvelles, mais en tout cas qui se développent. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'on a perdu le sentiment d'appartenir à la classe ouvrière, voilà. Et c'est passé quand même par les politiques, y compris qui défendaient la classe ouvrière, qui maintenant parlent sans arrêt de citoyens. Voilà. Ben, citoyen, ça va de Pinault à Arnaud à l'aide de domicile. Voilà, ça met tout le monde dans le même sac. Ou qui s'adresse aux Français bien français, comme Le Pen. Et pareil, ben, les Français, c'est Pinault, Arnaud et les aides à domicile. Et ce sentiment d'appartenir à une même classe ouvrière, qu'on soit OS, ouvrier professionnel dans une grosse usine, ou aide à domicile, il a pratiquement disparu, y compris chez les gens qui exercent ces professions-là. Et bah, moi, je milite dans le coin, et c'est bien souvent qu'on discute avec les gens qui nous disent « Non, moi, je ne suis pas ouvrier, moi, je fais partie des classes moyennes, y compris qui sont aides à domicile et qui ont le sentiment d'appartenir à des classes moyennes. Et pour eux, il y a les riches, les classes moyennes dont on fait partie, et puis ce qu'ils appellent les assistés, bon, qui sont RSA, etc. » Bon. Et moi, je pense qu'effectivement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, non, qu'on soit ORSA, qu'on soit chômeur, qu'on soit, etc., non, on appartient à une même classe ouvrière. Et bon, je pense que c'est à travers des luttes, bon, comme il y a pu y avoir en 36, en 68, qu'on pourrait justement se rapprocher. C'est d'autant plus choquant que, bon, la plupart des aides à domicile, ici, c'est des femmes qui sont été virées d'entreprises du coin, donc d'anciennes ouvrières, dont les compagnons sont des ouvriers, et bon, qui sont réellement des ouvrières. Mais y compris leurs compagnons, bien souvent, ben non, cette fierté d'appartenir à la classe ouvrière, ils l'ont perdue. Et ça, je pense que c'est aussi le problème du chômage, qui a quand même démoralisé un tas de gens qui ont perdu leur boulot et, d'une certaine façon, ce qui était leur fierté d'être. Et bon, Je pense que les revendications, c'est peut-être de se donner les moyens de travailler, mais je pense qu'aujourd'hui, avec la crise qui s'approfondit, les revendications principales, ça va être de survivre et de, que quand on a un boulot, au moins gagner de quoi bouffer, ce qui commence à ne plus être le cas, et y compris résoudre le problème du chômage, qui pour moi consisterait à imposer le partage du travail entre tous.
Alors, l'avantage de ce bloc social à composante féminine par rapport à l'ancien bloc social de la classe ouvrière, qui était majoritairement masculine, c'est que pour contourner le monde ouvrier du XXe siècle, le patronat a fait quelque chose de très simple, il a délocalisé une partie de la production en Chine en disant « mais si vous n'êtes pas content, eh ben, on fera la même chose avec des gens payés 20 fois moins ». Là, ça devient beaucoup plus difficile quand la personne qui est censée dire ça fait elle-même garder ses enfants par des aides maternelles, fait nettoyer son appartement par une femme de ménage, etc., a du personnel de service dans son bureau. C'est beaucoup plus difficile. Et l'une des particularités, c'est que ce bloc social féminin, si jamais il décidait de s'arrêter, les cadres et professions intellectuelles supérieures devraient, eux aussi, quitter leur bureau pour aller s'occuper de leurs nourrissons, de leurs personnes âgées, etc., etc. Et c'est évidemment, de la même manière, ce que je veux dire n'est pas exact, c'est un peu caricatural, mais ça donne une idée de ce que je souhaiterais exprimer, c'est que le bloc social féminin, il est à la civilisation des services, ce que la classe ouvrière masculine était à la civilisation industrielle. Je ne dis pas par là que la civilisation industrielle a disparu, elle est toujours là, elle s'est multipliée géographiquement, il y a beaucoup d'ouvriers en Chine, etc., etc. Bon. Néanmoins, dans une société de services, telle que la nôtre, hein, où il n'y a pas que des services, le moteur, c'est une classe ouvrière féminine qui produit ces infrastructures sociales. Et quand on dit « nous sommes de la classe ouvrière », évidemment, on ne pense pas à une femme. Mais dans les chiffres, c'est une femme. Ce sont des millions de femmes qui travaillent d'une manière différente que dans les manufactures, qui, comme on le disait à l'instant, si elles font grève, doivent s'organiser d'une manière différente, qui ont des traditions de lutte beaucoup moins anciennes parce que ce sont des professions beaucoup plus récentes et tout doit être organisé. La classe ouvrière masculine a mis un siècle et demi à s'organiser. Donc la classe ouvrière à composante, à majorité féminine. Et l'autre différence majeure, c'était que dans le monde ouvrier masculin, eh ben, les femmes travaillaient, mais travaillaient de manière non salariée. Ce qui fait que dans le rapport de force, la classe ouvrière marchait sur une jambe. Là, dans la classe ouvrière à dominante féminine, les hommes travaillent aussi. Ils sont simplement plus majoritaires. C'est pas grave, ils sont là aussi, mais ils sont plus majoritaires. Le moteur, ce sont les femmes. Mais ils travaillent, c'est-à-dire que la classe ouvrière à dominante féminine marche sur ces deux jambes. Vous avez les aides-soignantes, les auxiliaires de vie, etc., et les logisticiens, les gens qui bossent chez Amazon, etc., les chauffeurs de poids lourds, les ouvriers d'industrie, il y en a encore, je disais 5 millions, mais cette classe ouvrière, elle est beaucoup plus importante numériquement, et elle est beaucoup plus équilibrée, puisque dans l'ordre de la production, il n'y a plus simplement les hommes, il y a les hommes et les femmes, et plus précisément, les femmes et les hommes. Voilà, et le troisième avantage que je vois, c'est que, contrairement aux arrangements politiques des années 70, 80, 90, 2000, l'ensemble ne repose pas sur les classes et cadres et professions intellectuelles supérieures. Ce ne sont pas les bourgeois qui vont organiser une coalition dans laquelle le monde populaire sera rajouté par surcroît et dont on coupera les wagons sitôt l'élection faite. Là, l'idée, c'est les employés et les ouvriers sont majoritairement des femmes. Le moteur, on l'a vu pendant le Covid, de ce qui forme notre base sociale, ce sont des métiers. Et quand d'ailleurs je dis que ce sont des métiers féminins, ce ne sont pas des métiers qui sont destinés à être féminins pour la fin des temps. Hein. Bientôt, ce seront des hommes qui le feront. Évidemment, c'est un peu difficile de reconvertir un lamineur en massothérapeute sans transition, parce que tout s'y oppose, la formation, la philosophie personnel, le fait que la culture ne le promeut pas, etc. Mais dans 20 ans, ce sera probablement beaucoup plus simple. Et je pense que ce bloc social est à construire, mais là, on est dans un salon du livre, Et voilà, combien d'éditeurs ont centré aussi leur production sur la mise en valeur de ce qui s'est passé, alors même qu'on a eu une des crises les plus délirantes du siècle avec le Covid, où la société s'est arrêtée, on a vu qu'elle reposait sur un certain nombre de métiers. Enfin, c'était une occasion inouïe, une occasion inédite de dire, ben voilà, il y a quelque chose qui fonctionne, sans laquelle la société ne fonctionne pas. Ces métiers, ils ont des points communs. Là, ça fait 2 ans maintenant. Où est le parti, le syndicat qui s'est dit, ben, nous allons essayer d'organiser cette force sociale sans laquelle rien n'est possible. Et pour cela, essayer de dire, ben, à chaque fois qu'un journaliste, un commentateur à la télé dit les classes populaires et évoque une image masculine, de dire, mais c'est partiellement vrai. Aujourd'hui, les classes populaires sont majoritairement des femmes. Et depuis 25 ans, les classes populaires sont majoritairement des femmes. Des ouvrières, des employés, etc., etc. Et c'est une image qu'il faut se mettre dans la tête. Ça change absolument tout. Une fois qu'on s'est mis, surtout pour les hommes, cette image dans la tête, vous ne voyez plus la société du même œil. Et surtout, vous ne voyez plus la classe ouvrière du même œil. La classe ouvrière qui était associée au monde manufacturier qui existe encore, mais qui est toujours menacé de délocalisation, devient associé à cette force sociale qui a été promue pendant 2 ans, et depuis 2 ans avec le Covid, comme quelque chose d'indispensable, dont on sait qu'elle va croître numériquement, qu'elle n'est pas délocalisable, qu'elle est indispensable, que si elle arrête, tout s'arrête. C'est quand même incroyable de se dire, cette force existe objectivement, et tous ceux et toutes celles dont le métier est de la faire exister dans les têtes, regardent ailleurs.
Donc Christian, groupe Gaston Couté, Fédération anarchiste. Je dois dire que quand j'ai vu l'émergence du mouvement des Gilets jaunes, dans le Loir, et c'était pas forcément marrant, hein, mais une des choses qui m'a frappé, c'est précisément la féminisation. Je n'avais jamais vu des mouvements, entre guillemets, politiques, ils l'étaient, avec une telle proportion de femmes. Ça m'a frappé. Et naïf comme je suis, je me suis dit, bah, formidable, enfin, les choses vont peut-être s'équilibrer. Mais moi, je vais être un peu dur avec les partis politiques et les syndicats. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, que ce soit les partis politiques ou les syndicats, il y a vraiment un énorme problème. Et il nous appartient à nous, organisations politiques, de réfléchir fondamentalement à prendre acte de ce fait. Et moi, c'est peut-être pas la raison principale de l'impasse. Pour moi, ça a été une impasse. Hein. Mais quand même, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à ça, de me dire, mais au fond, cette féminisation n'a pas été perçue, et peut-être même, et là je suis peut-être un peu vache, mais qu'elle a été quelque part un peu rejetée par les syndicats, dont c'est pas la culture, et par les partis politiques, même de gauche. Et là, c'est un appel à la Fédération anarchiste, on fait ce qu'on peut, hein, mais c'est un appel à... Il faut, mais vous l'avez dit, j'ai peur d'être redondant avec vous, hein, mais vous l'avez dit, il faut absolument prendre en compte ça et réformer, y compris nos habitudes et nos cultures de militantisme dans les partis politiques et dans les syndicats. J'ai été, 20 ans à la CGT. Il y en a encore pour un petit moment à la CGT pour qu'on arrive à imaginer que précisément la majorité des militantes seraient des militantes, et que, y compris dans la répartition des fonctions, etc. Voilà. Moi, j'ai ce sentiment-là, il y a vraiment un échec profond, et il faut qu'on travaille profondément là-dessus. On a une énorme du pain sur la planche, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, une intervention qui n'est pas du tout en opposition, qui est juste un complément. Historiquement, effectivement, les femmes étaient beaucoup moins présentes dans ce qu'on appelle la production. Ceci étant, il y avait des secteurs particuliers où elles étaient très nombreuses, par exemple dans le textile. Enfin, on pourra citer d'autres. Ce qu'il y avait, c'est que souvent, la représentation syndicale ne leur donnait pas forcément la place qu'elles auraient dû avoir dans ces secteurs-là. Moi, j'ai connu, par exemple, enfin, j'ai fait une enquête, étant originaire du Limousin, sur Saint-Junien, où il il a fallu justement une transformation du premier syndicat qui était Guédis pour un syndicat qui devienne anarcho-syndicaliste, même si ce terme n'était pas utilisé, pour que les femmes aient un rôle dans ce syndicat, alors qu'elles étaient majoritaires dans la main d'homme. Ouais. Donc ça, c'est juste un petit truc historique. Pour continuer dans la même idée, toujours les femmes et la production, si on regarde sur le plan international... Là encore, la notion d'ouvrier et donc d'ouvrière existe. Enfin, quand on discute autour de nous, effectivement, dans les pays tels la France, on voit, on croit, en tout cas, il y a une diminution d'ouvriers de production, y compris d'ouvrières de production, s'il y en a, ce qui est relativement vrai. Mais par contre, au niveau mondial, la classe ouvrière classique, avec participation des femmes, notamment dans le textile en Inde et dans tous ces pays-là, est encore extrêmement très forte. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout en contradiction avec ce qui a été dit. Hein. C'est juste en complément. Je n'ai pas envie d'aller dans l'idée qui est dominante, notamment chez les partis et tout ça, que bon, finalement, la classe ouvrière classique disparaît, etc. Voilà. Donc, mais ce n'est pas du tout en contradiction. Hein. C'est juste...
Non, mais il faut toujours le rappeler. Voilà. Tu as raison. Il faut toujours le rappeler dans la mesure où non seulement la proportion d'ouvriers croît dans le monde, parce que la manufacture... était vraiment à l'apogée, peut-être, de ce qu'elle a pu être, avec une production insensée d'objets dont l'utilité est, pour le dire poliment, discutable. Mais mon sentiment est que dans un pays occidental, européen, même si la manufacture, en ce qui concerne l'automobile, et ce qui concerne certains secteurs, si on veut créer une coalition sociale qui est destinée à remporter des victoires et à imposer ses problématiques, il me semble... En fait, mon propos, c'est pas de dire que les services, c'est d'une certaine manière... que la société des services a remplacé la société industrielle. Mon propos est de dire, pour gêner la production, il faut arrêter le travail dans des services qui ne sont pas délocalisables et qui arrêtent la société. Évidemment, ce que vous avez dit tout à l'heure... C'est facile de dire ça quand je suis derrière une estrade, et si j'étais aide-soignante, j'arrêterais pas non plus de soigner les gens dont j'ai la charge, etc. Je me sentirais responsable. Néanmoins, ce à quoi des syndicalistes et souvent des femmes ont réfléchi et ont mis en pratique dans des endroits où ça paraissait presque impossible, faire grève dans un EHPAD, eh ben, c'est peut-être vers ça que les syndicats doivent aller en matière de réflexion, de comment on organise ça, comment on institutionnalise ça. Parce que c'est faire une grève tout en ne faisant pas grève pour les personnes âgées qui ne peuvent pas être reprises chez les particuliers, et tout ça, c'est pas non plus satisfaisant. Donc c'est des choses qui s'organisent. Et je crois que c'est un vrai devoir militant pour les organisations syndicales en particulier. Et ce que quelqu'un disait tout à l'heure, camarade disait tout à l'heure sur la CGT, c'est vrai, tous les cadres de la CGT, enfin la plupart des cadres de la CGT, ont une culture personnelle et un imaginaire politique. C'est normal, hein, d'une certaine manière, ça s'enlève pas comme le bouchon d'une bouteille. Hein. Un imaginaire politique, c'est ancré au plus profond de nous et ça s'enlève pas comme ça. Mais tant qu'on n'y travaille pas, ça se fera encore moins tout seul. Et... Voilà, mon sentiment, c'est, je porte pas de jugement de valeur sur ces métiers du. François Ruffin dit voilà les métiers du soin ou du. Moi, d'une certaine manière, c'est pas vraiment l'objet. Ce sont des métiers comme les autres. Moi, ce qui me paraît important, c'est de dire que c'est des métiers de la production. Certes, il y a une différence entre produire une voiture et produire quelqu'un d'éduqué. Et que même le terme de produire quelqu'un d'éduqué peut choquer des enseignants, de dire mais non, moi je produis pas, je forme des cerveaux. Mais je crois que c'est important dans une société où on accorde de l'importance qu'à ce qui est identifié comme de la valeur, de dire que même si elle n'est pas marchande, eh bien la richesse qui est produite par les soignants, par les enseignantes, par les gens qui font du nettoyage, etc., est une richesse, est une valeur, et que ces gens sont des producteurs. C'est pas seulement un artifice de langage, c'est justement parce que notre société est vraiment scindée entre la manufacture et le service qu'il faut trouver un point commun entre les deux, et que ce point commun, ben voilà, c'est de produire de la valeur. Alors, c'est toute une question, moi je dis pas que j'ai raison là-dessus, hein. Mais s'il faut faire du commun pour avoir de la puissance et affronter l'adversaire, eh ben, ça me paraît pas idiot de dire, voilà, ben, ces femmes qu'on a toujours renvoyées du côté de la sollicitude, notamment par tradition catholique, par machisme, hein, parce que les hommes étaient à l'usine et les femmes soit à la maison, soit dans des secteurs qui étaient... Bon, certains secteurs manufacturiers, comme tu disais, dans l'agroalimentaire, ou dans la sellerie, ou dans le textile, etc. Mais aussi, depuis longtemps, dans des services aux entreprises, sténodactylo, j'en parlais tout à l'heure, mais c'était des millions d'emplois standardistes, hein, les femmes qui mettaient les jacks dans les trous pour connecter des lignes téléphoniques, tout ça, ça a totalement disparu, mais il y a eu des millions de femmes qui sont passées par là. Dans l'informatique, hein, qui câblait les grosses machines, etc., les ordinateurs, les premiers ordinateurs. Tous ces métiers, c'était des métiers qui n'étaient pas des métiers directement productifs, mais qui maintenant ont disparu et sont numérisés. Les métiers féminins qui restent aujourd'hui sont des métiers qui sont au cœur, c'est le hardcore, quoi. On ne peut pas les délocaliser ou alors ça, on est sur l'os, là. Et si on va plus loin, on casse l'os. Et ça, on l'a vu pendant le Covid. Et c'est une force. C'est pas pour dire que ces métiers sont mieux que les autres, mais ces métiers, dans la société aujourd'hui, sont indispensables. Et tout le monde, y compris nos adversaires politiques, le reconnaissent. Donc c'est une force à exploiter. J'ajoute qu'il y a une chose qu'on sous-estime, c'est que si on veut créer cet imaginaire politique et culturel autour de ces métiers-là, eh ben, on ne peut pas faire l'économie d'opposer deux visions du monde. Vous voyez la vision du monde utilitariste conçue par des gens, des diplômés du supérieur, conçue par des gens aisés qui, grosso modo, pensent que les services publics représentent une dépense, représentent un coût, une charge, un fardeau, et que l'idée même de service public, qui consiste à socialiser de l'argent pour fabriquer ce dont on a tous besoin, cette idée-là est une concession à l'égalité qui entrave leur bonheur individuel. Et ça, c'est vraiment une manière de penser caractéristique des classes supérieures qui nourrit un idéal de société... et qui, d'une certaine manière, a bénéficié des services publics de l'éducation pour faire des grandes études, pour passer par les institutions scolaires les plus prestigieuses et se retrouver ensuite dans inspection des finances, au trésor, pour ensuite serrer la vis de ces services. Je retire l'échelle qui m'a permis de gravir. Et bon, c'est un trait de caractère assez commun. Et je crois qu'il s'oppose de manière brutale à cette autre vision du monde selon laquelle l'égalité n'est pas du tout une entrave à ma liberté, mais l'égalité est au contraire une condition nécessaire pour que je puisse exercer ma liberté dans la mesure où je ne suis libre qu'à partir du moment où la collectivité prend en charge les besoins fondamentaux que sont la santé, l'éducation, le transport, mais aussi le logement, l'énergie, les communications, etc. etc., etc. Et je crois que le service public, ça devrait être ça, et ce grand service commun qui regrouperait sous un statut commun tous ces personnels dont on a vu qu'ils étaient indispensables pendant le Covid. L'idée, c'est ça, c'est qu'on socialise cette partie importante, significative de la richesse pour assurer à toutes, à tous, une base matérielle et intellectuelle sur laquelle chacun peut ensuite, à titre individuel, s'épanouir. C'est ici l'endroit où jamais pour le rappeler, mais le socialisme, y compris le socialisme de Marx, c'est pas la grisaille de gens identiques, c'est l'épanouissement individuel, l'individu total qui s'épanouit parce qu'il peut reposer sur une base collective qui lui permet de remplir ces conditions nécessaires d'existence. Et je crois que L'avantage de cette coalition dont je parlais tout à l'heure, c'est que non seulement ce sont des groupes sociaux différents, non seulement ce sont des métiers différents, moi je pense enfin, toujours à cette opposition Mark Zuckerberg versus l'aide-soignante. Ce sont des gens que tout oppose. L'un est un homme, il travaille dans le numérique, il est riche, il a fait les plus hautes études, l'auxiliaire de vie est quelqu'un qui est mal payé, qui est contraint, qui se trouve en bout de chaîne, etc. Et tous les deux prétendent produire les infrastructures sociales. Mark Zuckerberg, dans ses communications, il dit que Facebook, c'est une infrastructure sociale. Tous les opposent. Et je disais, qui sont ces gens ? Leur manière de voir le travail, le bloc social, mais aussi cette vision du monde et cette vision de ce dont nous avons tous besoin. Zuckerberg, les financiers, etc., disent « nous avons besoin de services individuels produits par du privé pour... » Parce que, d'une certaine manière, nous pouvons nous payer tout le reste à titre individuel. Bon, c'est pas, faut pas chercher très loin la motivation. Et ben, l'autre bloc social dit « non, pas du tout ». Les infrastructures sociales, c'est ce qui nous permet, nous, à titre individuel ensuite, de nous enrichir intellectuellement, etc. Parce que nous avons cette base commune que sont l'école, la santé, le nettoyage. Voilà. Moi, je pense qu'on a un bon... La lutte de classe, on peut la voir comme ça, et ça semble complètement différent de... l'ouvrier de manufacture qui existe aujourd'hui, comme tu le disais à l'instant, l'ouvrier, il existe, il n'a jamais été aussi nombreux hein, au titre, au plan mondial. Mais voilà, il faut accepter qu'aujourd'hui, bah, c'est les femmes qui créent les infrastructures sur lesquelles nous, on s'épanouit comme individus. Ce sont elles qui sont le moteur, le moyeu, et dont les organisations politiques, moi, ce que je raconte, s'il fallait résumer mon propos, c'est qu'il faut que les hommes se mettent au service de la lutte que les femmes peuvent mener et qui sera différente des luttes d'avant. Et ce qui est marrant, c'est que, vous voyez, tu parlais des Batignolles, je te tutoie, c'est l'usage ici, tu parlais des Batignolles, mais aux Batignolles, c'est ce qui s'est passé, la CGT a mis son infrastructure au service des luttes de femmes de ménage, qu'on fait, je sais pas, plus de 300 jours de grève, c'est un truc vraiment héroïque. C'est hallucinant, on parlait tout à l'heure de l'imaginaire social de la lutte, mais là, on a des héroïdes, on a des gens qui sont... C'est inouï ce qu'elles ont fait, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et alors, il y a eu quelques reportages, il y a eu un film, mais il devrait y avoir des épopées. Ce devrait être une épopée, quoi, quelque chose dont on parle, dont... On devrait, ouais, il devrait y avoir des grandes actrices et des grands acteurs qui incarnent ces personnages pour créer cette espèce d'imaginaire social qui nous vrillerait dans la tête au vilebrequin. La classe ouvrière, ce sont majoritairement des femmes. Le moyeu, le vilebrequin qui donne le mouvement, ce sont les femmes. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Oui, moi je suis complètement d'accord avec cet aspect-là, qu'effectivement les femmes aujourd'hui sont majoritaires dans la classe ouvrière et que, bon, y compris les syndicats et bien des organisations politiques qui s'adressent à la classe ouvrière ont un peu sous-estimé ça. Bon, bon, voilà, mais de tout temps, parce que les femmes ont toujours été la portion congrue dans les syndicats. Et bon, voilà. Mais moi je crois qu'il faut faire attention, je sais que c'est pas du tout ce que vous dites, mais que même y compris quand tout le monde quand on nous a fait applaudir ce qu'on appelait les premiers de cordée, c'était une façon de dire qu'il y avait ceux-là qui étaient indispensables, parce que ça sautait aux yeux. Ouais, mais finalement, que la classe ouvrière, c'était... Voilà, c'est pas des gens qui défendent la classe ouvrière, c'est des gens qui, à l'époque, défendaient les premiers de cordée, parce que ça paraissait une évidence, puis parce qu'il valait mieux faire applaudir les premiers de cordée que de se laisser critiquer sur les insuffisances que les gouvernants, ils avaient. Bon. Mais en même temps, voilà, moi je suis pour ce qu'on dit, c'est bon, on dit les producteurs, bon, moi j'ai plutôt tendance à lire la classe ouvrière, mais c'est la même chose. Mais oui, il faut vraiment que nous, on sache que les gens qui présentent ça comme des premiers de cordée, etc., ils s'opposent des travailleurs les uns aux autres. Et bon, bah oui, bah, c'est un peu l'évidence. Pour aller au boulot, les filles qui allaient prenaient le métro avec des métros qui avaient été construits par des ouvriers. Quoi. Bon, voilà, c'est une évidence, il suffit d'y penser pour le savoir. Et que nous, voilà, quand on parle de ça, il faut vraiment penser en termes global de la classe ouvrière. tout en pensant qu'effectivement, il y a une espèce de priorité à avoir dans ces métiers d'aptitude. Je voudrais finir là-dessus, c'est que, oui, ces femmes-là, je ne parle pas des infirmières parce qu'elles travaillent avec, en collectif, etc. Mais les femmes qui travaillent toutes seules, elles sont, c'est des métiers très fragiles. Mais même dans le sens du rapport de force, c'est des rapports compliqués. Mais bon, il y a eu d'autres. Moi, je pense aux garçons de café, par exemple. Bon, voilà, défendre les garçons de café. Bah, les garçons de café, quand est-ce qu'ils ont obtenu des tatouages pour leur revendication? En 36. Voilà. Et en 36, tous les garçons de café défilaient. Bon, et je pense qu'effectivement, c'est aussi dans ce sentiment d'appartenance à la classe ouvrière et dans des luttes collectives que aussi toutes les catégories, même les plus fragiles, seront défendues.
Oui, d'une certaine façon, il y a quand même des évidences, c'est-à-dire que bon, le prolétariat est de moins en moins dans la production industrielle et de plus en plus dans la production de services. Ça, c'est une évidence. Et il y a une autre évidence, c'est que quel que soit le travail que vous allez considérer et l'emploi que vous allez considérer, vous allez toujours trouver que les étages inférieurs de l'emploi sont occupés par des femmes. Dans l'enseignement, ben, c'est l'institutrice de maternelle, il y a plus de femmes que si vous allez regarder du côté des classes prépa. Et pour moi, il y a un petit peu de... Comment dire? C'est deux problèmes différents. Il y a le problème du patriarcat, voilà, d'un côté, qui fait que dans n'importe quel boulot, de toute façon, les femmes vont être moins payées aux travaux, aux emplois les moins intéressants. Puis de l'autre côté, bah oui, le prolétariat est en train de devenir un prolétariat de service. Alors moi, je dis attention, enfin, il m'a semblé que des petites choses qui me gênaient un petit peu, c'est quand on applaudit trop ces femmes et qu'on appelle à constituer, comme vous avez appelé, un bloc social, et vous avez aussi appelé les partis politiques, que certains représentent ce bloc social, ben, il ne faut pas oublier qu'il faut faire attention à ne pas cantonner les femmes dans les soins, dans ces boulots subalternes, parce que si elles y sont, c'est parce que ce sont des femmes et qu'on est dans un monde patriarcal. Et moi, je pense pas du tout qu'il faut pas se centrer sur un homme politique va les défendre, va améliorer leurs conditions, nous avons besoin d'elles et merci à elles toutes, etc. Peut-être les encourager à sortir de ces boulots subalternes, à faire des choses plus intéressantes dans la vie. Par exemple, je vois en Espagne, il y a plus de licenciés femmes que de licenciés hommes, et comment ça se fait qu'après, dans les emplois, ça s'inverse? Voilà, et que les femmes vont se cantonner dans les travaux où elles sont le plus exploitées et tout ce qui est le moins intéressant. Alors, il ne faut pas non plus, moi je ne suis pas d'accord avec héroïne, avec magnifier tout ça, parce qu'on magnifie et du coup on les cantonne aussi là-dedans. Eh bien non, je veux dire qu'elles aillent faire autre chose aussi dans la vie, chef de chantier et tout ce qu'on veut. Et elles ne sont pas, je veux dire, une femme n'a pas plus à s'occuper, à être dans les soins de la personne, etc. Parce que ça aussi, c'est de la discrimination.
Oui, c'est juste, mais je le disais tout à l'heure, il n'y a aucune raison particulière pour que ces métiers soient occupés majoritairement par des femmes. Mais de fait, là, c'est le cas. C'est le résultat, bah, comme vous l'avez dit aussi, comme tu le disais tout à l'heure, de siècles de patriarcat. Et le temps que les hommes puissent occuper ces métiers, voilà. Moi, c'est plus le groupe sociologique qui me paraît important pour former cette coalition sociale. Après, pour ce qui concerne, il y a un autre phénomène dont j'ai pas parlé dans cette intervention, mais qui est mondial, quasiment, qui concerne la majorité des continents, sauf l'Inde et l'Afrique subsaharienne, qui est le fait que les femmes sont désormais plus diplômées que les hommes dans le supérieur. Alors, le fait que les filles réussissent mieux à l'école que les garçons, c'est un truc qui est très connu depuis les années 80, mais le fait que les femmes soient majoritaires dans l'enseignement supérieur, à tel point que, par exemple, quand vous prenez un pays comme la Pologne, vous avez 66% des diplômés du supérieur qui sont des femmes, ça fait un écart de plus de 30 points avec les hommes, c'est considérable, c'est... vous projette aussi dans un... Alors, est un bon indicateur du degré auquel les femmes sont ensuite rabaissées dans l'ordre de la hiérarchie du privé, la hiérarchie des entreprises, comme vous le disiez à l'instant, mais c'est aussi un bon indicateur de l'avenir. Et ce que tu disais tout à l'heure, je pense, c'est assez fortement lié à ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire que, grosso modo, en plus de devoir réaliser l'exploit de constituer ce bloc social, qui n'est pas un bloc par nature féminin, il se trouve qu'aujourd'hui, il est majoritairement féminin. Et donc, et c'est plutôt une force sociale, au sens où ce sont les classes populaires. Et évidemment, pour faire une politique populaire, il faudrait plutôt que ce soit les gens concernés qui soient le moyeu. En plus d'organiser ce bloc social, eh bien, cette coalition aurait pour mission, ce qui la rendrait universelle, comme le prolétariat, il y a un siècle, avait cette mission universelle, de récupérer avec lui la classe ouvrière, manufacturière, pour la mettre, bah, d'une certaine manière, dans le mouvement. Mais moi, ça me paraît, c'est plus juste une idée de stratégie politique. Aujourd'hui, la pression que font peser les dirigeants économiques sur l'industrie manufacturière fait qu'il est extrêmement difficile d'organiser une grève dans une usine et dans ce secteur-là, parce que cette grève, même si vous la conduisez, le patronat délocalisera. Et je souscris entièrement à ce que vous avez dit. Il n'y a aucune raison que ces métiers, ce soient des femmes. Il ne faut pas cantonner les femmes à métier de soins, etc. Mais il ne faut pas non plus cantonner le soin à la sollicitude. Et le soin, si on en fait une production, voilà. Et comment elle s'appelait ? Lily la rifteuse. C'est pas Lily, c'est... vous vous souvenez de l'image de cette travailleuse américaine des années 50 ? C'est à ça que je pensais. Rosie la rifteuse, ouais. Rosie la rifteuse, quand je dis qu'il faut créer un imaginaire collectif... C'est l'idée selon laquelle les héros, c'est pas des modèles à suivre, c'est la manière dont on forme nos images, dont on forme nos pensées. Et l'idée du héros des classes populaires, tel que l'avaient conçu les syndicats, etc., ça s'oppose sans doute aussi à une philosophie anarchiste, etc. Mais je crois que c'est l'imaginaire culturel est quelque chose de très important pour avoir... Une image commune qui se forme dans nos esprits lorsqu'on évoque une lutte, lorsqu'on évoque un... Et c'est bien évidemment pas l'idée de cantonner un sexe à un travail ou un genre à une forme de travail, mais l'idée de pouvoir convoquer des images communes qui nous parlent à tous et à toutes lorsqu'on évoque des luttes, etc. Et c'est pour ça que j'évoquais ce travail de production de l'imaginaire collectif. Après tout, les gens qui font ces imaginaires-là, les artistes, les écrivains, etc., sont aussi des producteurs. Vous avez l'air super intéressé par un truc qui se passe en dessous, là, c'est quoi ?
Je vais expliquer. Sur l'affiche, la colloque autogestion, d'où je suis, je ne vois pas de femmes. On voit des hommes, beaucoup d'hommes, pas de femmes. Voilà.
C'est les conclusions qui nous indiquent le travail qui reste à faire.
Bon, eh bien, je pense que nous allons nous arrêter là, à moins que vous ayez quelque chose à dire. Non,
ben non, merci pour votre accueil. Hein.
Eh bien, merci beaucoup, et on va se quitter avec la compagnie Jolie Môme, l'hymne des femmes. Prochaine conférence, qui sera aussi la dernière pour aujourd'hui, à 17h15, donc rendez-vous 17h15, et tout de suite, l'hymne des femmes. Yeah.
passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Nous fous, nous femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisées, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Levons-nous, femmes esclaves, et jouissons sans entrave. Debout, debout, debout.
Nous restons dans le monde du spectacle, artistes, techniciens.